Rebelle Hebdo, le magazine des luttes sociales et des alternatives politiques et économiques dans le bassin minier et au-delà.
Micro Rebelle Hebdo, c'est chaque semaine sur micro-rebelle.fr et sur PFM 99.9.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un courriel à contact@micro-rebelle.fr.
Vous pouvez nous envoyer vos actualités toujours par courriel à contact@micro-rebelle.fr.
Retrouvez toutes nos émissions sur le site de notre web radio micro-rebelle.fr.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de Micro Rebelle Hebdo, à la fois sur microrebelle.fr et sur PFM 99.9. Je commence par vous rappeler nos horaires de diffusion. C'est le mardi à 15h, le samedi à 7h30 et la nuit de dimanche à lundi à minuit. Micro Rebelle Hebdo, c'est un magazine qui explore l'actualité sociale, politique, un magazine qui s'inscrit dans les luttes pour la mise en œuvre d'une nouvelle société, un magazine à l'écoute des mouvements sociaux dans le bassin minier et au-delà. Chaque semaine, nous vous proposons notre agenda social et culturel, des reportages d'actualité et de la musique libre. Sans attendre, voici notre agenda social et culturel du samedi 23 septembre au samedi 30 septembre.
À l'appel du mouvement de la paix, le samedi 23 septembre, plusieurs marches pour la paix sont organisées dans de nombreux endroits en France pour réclamer un monde de solidarité, de justice, de liberté, d'égalité, de fraternité et de paix. À Calais, rendez-vous sera donné à 14h30, donc le samedi 23 septembre, sur la place d'Armes, pour dénoncer les grilles, les murs, les barbelés qui défigurent notre horizon, les technologies de guerre utilisées contre les civils, drones, scanners au tunnel, gaz et grenades de désencerclement en ville, harcèlement psychologique jour et nuit contre les exilés bloqués à Calais, les violences policières dénoncées par Human Rights Watch et le Défenseur des droits, les contrôles aux faciès abusifs et illégaux dans les gares de Calais et de la région. Pour rappel, depuis 2015, 53 morts sont recensés à la frontière franco-anglaise, la plupart écrasés par des camions.
Le dimanche 24 septembre, c'est la fête de l'agriculture paysanne à Los Angeles. L'agriculture paysanne, c'est une agriculture locale, sur de petites fermes, une agriculture respectueuse de l'environnement et qui permet aux paysannes et paysans d'exercer leur métier sans dépendre de l'industrie. Pour ces fêtes de l'agriculture paysanne, toute la journée, il est prévu des animations récréatives pour tous les âges, ainsi que des stands associatifs qui vous permettront de rencontrer les associations qui accompagnent celles et ceux qui souhaitent s'installer dans une petite ferme et qui défendent cette agriculture humaine, solidaire et durable. Durant la journée, vous pourrez également rencontrer des producteurs locaux et régionaux et déguster leurs produits du terroir. Vous pourrez enfin profiter de la visite d'une mini-ferme spécialement installée pour cette journée de fête. Enfin, ne manquez pas la conférence avec Florent Ladenne et Isabelle Saporta. Florent Ladenne est un chef étoilé, très attaché à ses racines, et Isabelle Saporta est une journaliste engagée, fin connaisseuse des questions agricoles et alimentaires. Je vous rappelle les aspects pratiques de cette journée. C'est la fête de l'agriculture paysanne, toute la journée du dimanche 24 septembre, de 10 à 18h, et c'est à Los Anguel, halle Salengro et alentour, avenue du Général de Gaulle. Toutes les informations sur le site dédié de la fête, fêtepaysanne.fr, fête paysanne tout collé.
Le jeudi 28 septembre, comme tous les jeudis, le magasin gratuit ouvre ses portes au LAG, le lieu autogéré du bassin minier, au 23 avenue Jean Jaurès à Liévin. Le magasin gratuit, comme son nom l'indique, c'est un espace de gratuité dans lequel vous pouvez trouver des livres, de la vaisselle, des vêtements, du mobilier, etc. et tout ça gratuitement. Pour le LAG et l'équipe du magasin gratuit, il s'agit d'une initiative politique qui s'inscrit contre la marchandisation de tous les aspects de notre vie. Le magasin gratuit du LAG, c'est tous les jeudis de 15h à 17h. Si vous souhaitez venir y chercher toute chose qui pourrait vous être utile. Par ailleurs, vous pouvez également contribuer à la réussite du magasin gratuit en apportant vos propres affaires. Dans ce cas, c'est le jeudi également, toute l'après-midi, de 14h à 18h. Toutes les affaires dont vous n'avez plus besoin et qui pourraient encore servir, bref, des affaires qui sont encore en bon état. Je vous rappelle que c'est au LAG, 23 avenue Jean Jaurès, à Liévin.
Toujours le jeudi 28 septembre et toujours au LAG, vous pouvez participer à la réunion mensuelle des objectrices et objecteurs de croissance. C'est une bonne occasion de rencontrer des représentantes et représentants du mouvement de la décroissance dans le Pas-de-Calais. C'est donc le jeudi 28 septembre au LAG, 23 avenue Jean Jaurès à Liévin, et c'est de 19h à 21h.
Dans l'agenda culturel, le vendredi 29 septembre, nous signalons le spectacle de notre ami Thomas Suel, un spectacle intitulé « Sol et l'eau ». C'est à Brué, au Temple, à 20h et on peut réserver au 06 07 32 65 57. Eh bien, je vous propose maintenant une première pause musicale sur microrebelle.fr et sur PFM 99.9. Comme toujours, il s'agit de musique libre et aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir un morceau proposé par le label californien Jumpsuit Records qui nous propose de découvrir le groupe Grandfather Gold. Le morceau qui suit s'intitule « As I Thought You Knew » et c'est du folk intimiste mais intense qui ne s'interdit pas de jolies envolées. C'est assez envoûtant.
Grandfather Gold. teacher, where have you been? I've been riding around with the wind. Your songs are a melody awakened, and they help us to remember what's sacred. Oh student, where have you been? I've been out a-traveling.
C'est maintenant l'heure de notre rubrique actualité sur microrebelle.fr et sur PFM 99.9. Aujourd'hui, nous revenons sur trois actualités qui se sont déroulées la semaine dernière. Tout d'abord, la manif à Lille contre la loi travail. On en a déjà parlé à Microrebelle Hebdo et sur PFM. La loi travail, c'est la casse du code du travail et, mardi 12 septembre, de nombreuses manifestations ont mobilisé des salariés, des étudiantes et étudiants, des jeunes, des retraités. Microrebelle participait à la manifestation lilloise et, ainsi que cela a pu être relevé, la caractéristique essentielle de cette manifestation, c'était le large spectre de ses participants. L'année dernière, les manifestations contre la loi El Khomri étaient marquées par une empreinte très forte de la CGT. Cette fois-ci, on y voyait de façon plus équilibrée la CGT, Sud, la FSU, des syndicalistes FO en désaccord avec leur direction, la CNT, la France Insoumise, le Parti Communiste, mais aussi un sympathique cortège de jeunes lycéens et lycéennes, étudiantes et étudiants, des sans-papiers, des associatifs, etc. Cette mobilisation protéiforme est sans doute prometteuse. Notons à ce sujet les manifestations d'ores et déjà annoncées de la France Insoumise ce samedi 23 septembre, ainsi que la mobilisation des transporteurs routiers la semaine suivante. Je vous propose d'entendre quelques manifestantes et manifestants qui ont indiqué à Microrebelle le sens de leur participation à la manif lilloise le 12 septembre.
Bah aujourd'hui, qu'est-ce qui motive, c'est que Macron enlève tout ce qu'il y a pour sanctionner le code du travail, d'une part, et d'autre part, qui démissionne.
Pour défendre le droit des travailleurs et des jeunes surtout, parce qu'il y a beaucoup de contrats précaires et beaucoup de chômeurs chez les jeunes, et c'est assez inquiétant.
Je pense que c'est une mobilisation qui doit être assez concrète aujourd'hui, positive, parce qu'on n'en veut plus de M. Macron. Il y en a ras-le-bol. Il commence à toucher le code du travail, que nos aïeux ont fait grève de 36, tout ça pour les congés. M. Macron, partez, on ne veut plus de vous. Et c'est moi qui le dis.
Alors ben aujourd'hui on est là contre la casse du code du travail et même au-delà de ça c'est pour porter nos revendications au-delà de la fin des ordonnances. Donc retrait des ordonnances, retrait de la loi travail, nouveau code du travail de progrès social pour les travailleurs. Moi je suis très contente de cette manifestation, je suis très contente de l'état de mobilisation puisque ça fait déjà plusieurs jours qu'on nous dit que les syndicats sont divisés, qu'on n'est pas capable de mobiliser. Et ben aujourd'hui sur l'île c'est la CGT, c'est FSU et Solidaires. Et on a une très belle manif qui mobilise très bien pour une première journée et ça ne fait que commencer.
Pourquoi on est là aujourd'hui ? Ben, c'est pour les retraités, pour notre CSG, pour les augmentations, je ne sais plus à combien de pourcents, mais je sais qu'elle va augmenter. Donc voilà, tout ça c'est pour nous aussi avec les actifs.
Bon, moi je suis là parce que ça fait beaucoup de bien de voir plein de monde dans la rue, tout simplement. Il y a un monde fou, il y a longtemps que j'ai pas vu autant de monde.
Manifester contre surtout Macron, contre la droite, hein, contre ses. Il est en train de démanteler l'ouvrier, démanteler l'ouvrier, quoi, tout simplement. Il veut mettre plus bas que terre par rapport aux plus riches. Hein. Voilà, il veut une démonstration du riche et du pauvre. Voilà. Aujourd'hui, je suis content de cette tournée, il n'y a pas de souci, il y a du monde. Il y a du monde et ça, je pense que ça va porter ses fruits.
Parce qu'on en a marre des injustices sociales. Macron, c'est le président des riches. Il est en train de favoriser toute la finance, tous ses amis. Et nous, ils nous pressent comme des citrons. Ben, on espère que ça va aboutir à quelque chose quand même. De toute manière, il y en aura d'autres. Hein.
Pour l'avenir de mes élèves, je suis enseignant et c'est pour l'avenir de mes élèves et de mes enfants. J'étais à Valenciennes ce matin et je pense que là, avec la manifestation de Lille, ça fait un beau rassemblement. Donc.
Contre la loi travail et puis comme je suis retraitée pour les, l'augmentation de la CSG pour les retraités aussi. Pour moi c'est un succès, oui j'espère que la prochaine ça sera également la même chose.
En tant qu'infirmière c'est pour le gel du point d'indice, la suppression de postes dans toute la fonction publique hospitalière, la journée de carence et la loi travail.
Bah, je suis là contre les ordonnances Macron et voilà, contre la casse du code du travail, on va dire, de manière générale. On est super nombreux là dans la rue et j'espère que c'est pareil partout en France. Donc si c'est aussi bien, ça peut que être le début de quelque chose de bien plus grand.
Donc je suis là aujourd'hui pour cette manifestation parce que tout simplement toute la société est concernée par ces questions de travail et on voit que le tissu se dégrade depuis un paquet d'années. On en arrive à ce point-là et finalement on nous demande d'accepter des choses qu'on n'aurait pas acceptées il y a quelques années la première réflexion. Donc voilà, donc pour moi qui suis entre guillemets jeune et puis pour tout le monde. Voilà, je suis là, j'essaie de faire ce que je peux. Très inquiète par les résultats de cette manifestation parce que, de toute façon, c'est que on va se retrouver à nous casser des briques sur la tête, donc voilà.
Bah pour défendre les intérêts de tout le monde contre la loi. Les idées de notre président qui en plus nous traite de fainéants. Donc voilà, à Force Ouvrière, on est libre et indépendant. Donc malgré le positionnement de Jean-Claude Mailly, on est dans la rue. C'est un souci, ouais, c'est un gros souci. Ouais. Je sais pas où on va, mais on y va tout droit.
Pour manifester simplement, parce que c'est pas normal qu'on laisse faire ça, c'est tout.
On est là pour le FO et là pour le retrait des ordonnances de la loi Macron.
C'est pas ça qu'on voulait après 2017, on se faisait pas d'illusions et on est déterminé à faire en sorte qu'on respecte le droit du travail et puis qu'on arrête de prendre les gens pour de la merde qu'on peut précariser sans cesse.
Une autre actualité sur laquelle nous sommes revenus à plusieurs reprises dans Micro Rebelle Hebdo, c'est la mobilisation contre les compteurs Linky dans le bassin minier. Alors à ce sujet, je vous invite bien sûr à consulter sur notre site, hein, micro-rebelle.fr, le site de notre web radio, nos dernières émissions qui ont été consacrées à cette mobilisation contre les Linky. Alors bien, depuis, les réunions publiques continuent à se mettre en place. Hein. Après Angres, c'est Grenet qui a tenu sa réunion publique. Hein. Et à chaque fois, dans chaque réunion publique, on constate qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de monde qui se déplace. Et donc, dans la continuité des réunions publiques, la résistance s'organise. Par exemple, à Angres, chaque mercredi soir, une permanence se tient à la maison des associations, hein, juste à côté de l'église, une permanence entre 18h et 20h, pour recevoir les personnes qui souhaitent se renseigner sur la manière de refuser, hein, parce qu'on a parfaitement le droit de refuser le compteur Linky. Donc des permanences qui, elles aussi, reçoivent beaucoup de monde. Toujours à Angres, une pétition commence à circuler, des tracts d'information sont distribués. Il paraît même que Enedis, de son côté, souhaite riposter, entre guillemets, en tenant à son tour des permanences avec des personnes qui pourraient être intéressées pour poser des questions à Enedis. Alors Enedis n'aime pas la contestation, ce qui ne l'empêche pas de continuer à installer à marche forcée ses compteurs dans toutes les cités de toutes les villes du bassin minier. Alors continuerons à rendre compte de cette résistance et de ces mobilisations contre ces installations de compteurs Linky.
Notre dernière actualité cette semaine concerne le marché aux puces du Vieux-Calonne, samedi dernier 16 septembre. Le Vieux-Calonne, c'est le quartier dans lequel se trouve le studio de Micro Rebelle, et pour nous c'était une excellente occasion d'ouvrir nos portes, d'aller à la rencontre de nos voisines et voisins et d'échanger avec les habitantes et habitants du quartier. Ce fut une belle journée sous le soleil. Nous avons eu de chouettes discussions et pris quelques contacts qui devraient déboucher sur de nouvelles émissions. Nous en reparlerons. Et comme nous étions en plein cœur du marché aux puces, nous avons pu donner la parole aux personnes présentes. Je vous propose donc d'écouter dans un premier temps Delphine, Angélique, Patrice, Cécile et Karine, 5 puciers et pucières qui vendaient différentes choses, et puis dans un deuxième temps, Pascal, Fabienne, Corinne et Jean qui flânaient de l'autre côté des étals et qui donc étaient de potentiels acheteurs ou acheteuses.
Moi, je vends les vêtements de mes enfants.
Ça négocie beaucoup les prix.
Moi, je vends tout à 1 euro et en général, ils demandent à 50 centimes ou voire moins encore. Je sois à 50 centimes ou à 1 euro. Bah, en fait, j'habite ici, en fait, dans la même rue, donc tous les ans, je le fais.
Ben, je vends des habits, des jouets, des chaussures. Bah, la lampe 5 euros, les livres 1 euro ou 50 centimes. Ils négocient beaucoup. Ça fait des années que je le fais, donc ouais, tous les ans, oui.
Et là aujourd'hui, je suis passé un bon matinée, une journée à vendre, à faire un marché aux puces, qui est très agréable. Bah, c'est un peu tout, vêtements, jouets d'enfants, câbles électriques, enfin toutes des choses qu'on cumule dans un grenier qu'on n'utilise jamais et donc on débarrasse quoi. Bah, comme les vêtements, par exemple, tous les vêtements, je les fais à 50 centimes, par exemple. Tout ce qui est vêtements, 50 centimes, et autres, en moyenne, c'est 1 euro, quoi. Ça va pas très haut, à part les gros trucs électroménagers, où là, ça va de 10 à 30 euros, quoi. Bah, les gens négocient énormément. Énormément, mais bon, on essaye de lutter avec. C'est moyen, c'est moyen. C'est correct, mais bon, c'est dur quand même. Bah c'est je le fais tous les ans, donc comme c'est ma belle-mère qui s'occupe un peu du comité, qui fait partie du comité, qui tous les ans me rappelle qu'il y a le marché aux puces, et puis j'y viens tous les ans. Quoi. Il y a deux grands marchés aux puces, un qui se passe à la Bande-Côte au mois de juin, et c'est deux comités qui travaillent ensemble et qui organisent tout le temps ces beaux marchés aux puces qui sont où il y a beaucoup de monde. Quoi.
Je vends beaucoup de vêtements enfants de mes petites filles, des jouets, ouais. Et puis c'est tout. Ouais, des
produits.
Bah, les vêtements, ça varie entre 50 centimes et 2 euros, ça dépend ce que je vends en fait. Hein. Donc il y a un peu de tout, il y a des jeans, il y a des manteaux, il y a vraiment de tout. C'est familial, c'est beaucoup familial. On brade, hein. On est là sur le marché aux puces, donc on brade beaucoup, on est là pour. Puis on veut se débarrasser surtout, donc faut vraiment faire des petits prix. On vide les greniers, exactement. Ah non, on le fait régulièrement, c'est devenu une habitude. Même si on n'a pas beaucoup de choses à vendre, on vient par plaisir. Il fait bon, malgré la météo qui nous avait prévu, il fait super bon. Donc on est là avec plaisir.
Beaucoup d'articles de brocante. Des étains, des urnes, des vases, des cadres, des toiles, guéridons. Tout à fait, en tant que particulier, une à deux fois par an, je participe à des vides-greniers. Bonne ambiance, nous avons le soleil, les gens ont le sourire, c'est parfait. Il faut toujours augmenter un peu les prix pour avoir à peu près ce qu'on veut. Un peu commerçante.
Bah écoutez, je viens de déménager, puis je cherche des persiennes, des rideaux et tout, donc je profite en plus du beau soleil pour faire mes emplettes. Bah je lui ai demandé combien elle le vendait, cette dame, elle le vend 2 euros. Bah, 2 euros au magasin, ça coûte au moins 20 euros, donc je n'ai même pas discuté, 2 euros c'est pas cher quoi.
C'est une lampe de une lampe d'appoint je pense, une lampe. Parce que j'ai trouvé ça beau. Moi, je négocie jamais. C'est très rare que je négocie. Si le prix me convient, je dis oui et puis c'est bon. Moi, je ne négocie jamais.
Une horloge et un cadre pour ma fille, pour décorer sa chambre. Non, très sympathique, 1 euro, c'est beau. C'est bon.
Bon, là, il y a 2 albums de timbres, du parfum et 2 montres. Dans l'autre sac, il y a des verres à bière, des vases, un vase en état, et puis ce que tu as acheté. Là. C'est
un
pour mettre des
fruits. Pour mettre des olives.
Dites-nous tout.
On n'en a pas vraiment besoin, non, mais bon.
Si on les prend,
on a eu des coups de cœur.
C'était pas prévu, ce sont des coups de cœur. Le vendeur était super sympa, il nous a fait vraiment un prix, parce que pour les 2 albums de timbres, il nous a fait 30 euros les 2 albums de timbres. Pareil, tous les vendeurs sont super sympas, et les vendeuses aussi, parce qu'il y a beaucoup de vendeuses, sont super sympas, et bon, on a négocié un peu les prix, mais souvent les prix sont très attractifs, donc il y a des fois on n'essaye pas de marchander. J'habite Bully-les-Mines, hein, donc c'est pas très loin, et puis effectivement je le fais tous les ans. Hein. Toujours des bonnes affaires. Bon, après un marché aux puces, on ne sait pas ce qu'on va trouver ou dénicher. Et bon, c'est ça aussi le plaisir. Bon, là, il y a un petit soleil, c'est très clair, donc tout de suite, tous les étals paraissent magnifiques, quoi, hein, c'est superbe.
Place maintenant à notre deuxième pause musicale. Une pause musicale dédiée aux amateurs de piano et d'improvisation. L'artiste est Provinciano. Il nous interprète « Romance ». C'est extrait d'un album qui a vu le jour suite à une collaboration entre la ville de Santiago, au Chili, et divers artistes.
Thank you.
C'est maintenant l'heure de notre reportage sur microrebelle.fr et sur PFM 99.9. Tous les reportages de Micro-Rebelle peuvent être podcastés et téléchargés sur notre site micro-rebelle.fr, micro et rebelle au pluriel, à la rubrique Micro-Rebelle reportage, dans leur intégralité. Nous en diffusons un extrait dans Micro-Rebelle Hebdo sur microrebelle.fr et sur PFM 99.9. Aujourd'hui, nous vous proposons un extrait de reportage que nous avons consacré à l'agriculture paysanne. Tout à l'heure, nous vous avons annoncé la tenue de la fête de l'agriculture paysanne, le dimanche 24 septembre à Losangoël. Eh bien, dans le reportage que vous allez entendre, nous donnons la parole à plusieurs paysannes et paysans qui viennent de s'installer ou, au contraire, qui ont transmis leur ferme. Si cet extrait vous a intéressé, n'hésitez pas à écouter l'intégralité du reportage sur le site de notre web radio. Je vous laisse donc sans attendre en apprécier quelques passages et je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien.
Bonjour, moi c'est Justine Berthou, j'ai 27 ans et je suis installée en maraîchage biologique sur la commune d'Hermelingan dans le Boulonnais depuis le 21 mars 2017. Alors je suis hors cadre familial à la base, mes parents sont cadres dans l'informatique. Et moi, j'ai fait des études pour être ingénieur forestier où je me suis spécialisée dans l'agroforesterie par après. Et j'ai voulu me rediriger vers l'agriculture, notamment le maraîchage, avec l'idée de faire un peu d'agroforesterie dessus aussi.
Alors donc, c'est une toute jeune installation. Comment ça se passe? Comment tu commercialises? Quels sont les débouchés?
Alors en fait, j'ai eu beaucoup de chance parce que c'est un paysan qui m'a ouvert les portes de sa ferme. Donc c'est un éleveur laitier qui m'a cédé 1,80 hectare pour que je puisse m'installer. Et en fait, l'idée c'était de compléter lui sa vente directe de viande. Et du coup, moi je produis les légumes. Donc une partie des légumes sont revendus à la ferme pour alimenter le point de vente. Et sinon, je fais aussi des marchés et je livre des entreprises avec les légumes.
Alors, une formation en agroforesterie, tu es hors cadre familial, autrement dit pas du tout issu du milieu agricole et paysan, c'est difficile, comment on apprend ?
Oui, c'est très difficile parce qu'en plus j'ai fait mes études à l'étranger, donc je suis partie 5 ans en Amérique du Nord et donc quand je suis rentrée en France, j'avais vraiment qu'un très lointain souvenir du milieu agricole français. J'avais un grand-oncle qui était éleveur laitier mais pour qui ça s'était mal terminé, donc voilà, j'avais beaucoup d'a priori là-dessus. Et donc, il a fallu que je me forme pour le maraîchage. Donc, j'avais commencé à travailler chez une maraîchère le soir pour voir si j'aimais vraiment ça. Et après, j'ai été accompagnée par Avenir pour monter mon projet. Et puis, on m'a proposé de faire la formation APTEA, une formation où je pouvais aller travailler chez 3 maraîchers en alternance pendant un an et aussi faire des formations théoriques sur la comptabilité, la gestion, faire des tours de plaine et rencontrer d'autres agriculteurs pour être plus dans le monde agricole que je connaissais mal.
Alors si tu es d'accord, on va détailler un petit peu cette formation APTEA. Donc c'est une formation qui est mise en place par l'association Avenir. Alors concrètement pour toi ça s'est passé comment? Tu parles de trois autres fermes. Alors comment ça se passait? C'était à la semaine Est-ce que tu peux nous décrire précisément, enfin concrètement?
Oui, alors en fait, tous les mois, j'avais un planning que j'élaborais avec l'association Avenir. Et donc, j'avais en tout 44 jours à faire chez chaque maraîcher. Et donc, en gros, j'avais à peu près 3 à 4 jours par semaine où j'allais travailler chez eux. Donc, en général, je m'arrangeais pour être toutes les semaines sur chaque ferme. Donc, je tournais et j'avais aussi un ou deux jours, soit pour aller en formation complémentaire sur d'autres sujets, soit pour travailler mon dossier et aller à mes différents rendez-vous avec les banques, les assurances, etc., pour pouvoir être prête à m'installer à la fin de ma formation.
Alors les 3 fermes dans lesquelles tu allais chaque semaine, hein, 44 jours par ferme, c'est des fermes qui faisaient la même chose ou tu as appris des choses différentes? C'était complémentaire?
Alors j'avais principalement recherché autour de chez moi au départ, donc dans le Boulonnais, et j'ai eu la chance de tomber sur 3 fermes bien différentes avec des surfaces différentes, donc qui allaient de 8000 m² à 10 hectares. Et avec des mécanisations différentes, du motoculteur au tracteur, et avec des modes de commercialisation différents aussi, que ce soit des paniers, AMAP, Ruche qui dit oui, les cantines de lycée, les biocoop, la vente à la ferme. Et du coup, ça m'a permis de me faire une idée sur ce que j'aimais vraiment faire. Et ça a changé pas mal de choses par rapport à l'idée que j'avais de mon installation après et ce que je fais finalement maintenant. Ça a permis de savoir ce que je voulais vraiment faire, de ce que j'aimais.
Finalement, cette formation APTEA, c'est une bonne formule pour se rendre compte de la réalité du métier, finalement.
Ah bah oui, complètement. Ça m'a permis à la fois de m'intégrer, de me rendre compte des démarches qu'il y avait à faire. Ça m'a permis de voir les erreurs à éviter. Je pense que j'ai gagné beaucoup de temps en voyant les erreurs que eux avaient faites et que du coup moi je n'ai pas faites, et ils m'ont donné voilà tout leur secret, et du coup je me suis installée beaucoup plus sereinement que si je n'étais pas passée par là, et j'en serais pas là aujourd'hui si j'avais pas fait cette formation.
C'est une belle expérience. Réciproquement, toi, ça t'a apporté beaucoup de choses, mais pour le fermier, pour le paysan qui t'accueille, c'est aussi un coup de main que tu leur proposes finalement. Tu m'as dit, c'est lui aussi, il est d'une certaine manière gagnant sur cette opération.
Ah bah oui, en plus j'étais là toutes les semaines, donc au départ c'est sûr il y a un temps de formation, je connaissais pas tout, mais après ce qui était bien aussi c'est que j'ai gagné peu à peu en autonomie et j'ai pu avoir des responsabilités, me charger de certains travaux au champ, d'accompagner des nouveaux stagiaires ou d'autres choses comme ça aussi, et puis pour eux je pense que c'était agréable aussi parce que ça les a mis en lien avec les autres paysans qu'ils ne voyaient pas forcément, et donc à chaque fois que je revenais, bah, je donner des nouvelles des autres, eux demander des nouvelles, puis ben, est-ce qu'il a planté ses poireaux, comment il a fait, donc ça permettait de comparer, et après on avait des sessions de regroupement où on se voyait entre nous tous ensemble, et ça permet aussi de créer du lien social et de sortir un peu de sa ferme, voilà.
Alors donc, tu viens de t'installer hein, dans une ferme existante, hein, mais tu as ta propre production. Quel regard tu as, hein, bon, tu as 27 ans, tu démarres tout juste, quel regard tu as sur le monde paysan, sur ses difficultés, ses réussites, ses espoirs, comment est-ce que tu analyses un petit peu tout ça, de ton point de vue, de ta fenêtre en quelque chose ?
Eh ben, j'avais beaucoup, beaucoup d'appréhension à rentrer dans le monde agricole, parce que moi, je ne connaissais que la fenêtre de l'élevage industriel, de l'agriculture intensive. Et en fait, en rentrant dans le réseau, en passant par les différentes associations, parce qu'on est aussi passé par le CEDAPA pour préparer mon arrivée sur la ferme qui était déjà existante, et bien en fait, j'ai rencontré vraiment beaucoup de monde, c'était très solidaire, des fermes à taille humaine, raisonnées, où on essaye de changer les choses. Et ben, moi, ça m'a vraiment confortée dans l'idée de faire partie de ces personnes-là qui cherchent toujours à améliorer, à être plus solidaires, à être plus respectueux de l'environnement, des bêtes, et plus proches des consommateurs. Et moi, je trouve que c'est très positif, quoi.
Finalement, c'est commencer à dessiner une autre société.
Ah bah oui, complètement, complètement. Mais je pense qu'il faut encourager. Je pense que les consommateurs de plus en plus regardent en plus. Et du coup, je pense que le meilleur moyen, c'est d'ouvrir les fermes et de se faire connaître et continuer le travail que les associations font. Et tout doucement, ça, tout finira par changer pour le meilleur.
Bien, je te remercie. Alors peut-être une toute dernière question, peut-être un peu plus personnelle, tu verras si tu réponds ou pas. Hein. Donc là, tu viens juste de t'installer, mais tu n'es pas vraiment chez toi, en quelque sorte.
Mm-mm.
Est-ce que, peut-être pas pour maintenant, mais est-ce que tu as d'autres projets à terme, une installation complètement personnelle, ou est-ce que tu attends de voir quels sont tes projets ?
Ben, pour l'instant, c'est vrai que je ne suis pas, vraiment chez moi, mais en tout cas, avec le cédant, on a tout fait pour que je me sente chez moi. Donc, j'ai un bail très sécurisant, j'ai mon propre accès à la ferme, donc eux rentrent par leur côté de la ferme, moi j'ai mon côté aussi. On prend des décisions ensemble. Pour l'instant, je n'habite pas proche du terrain, c'est l'handicap. Moi, j'habite sur Boulogne et la ferme est à Ermelingan, donc j'ai 20-25 minutes de route tous les jours. Et voilà, à terme, d'ici 2-3 ans, l'idée, ce serait de se rapprocher avec mon conjoint pour voir de trouver une maison pas loin de la ferme pour que ce soit plus facile. Mais bon, sinon, je me sens... On a tout fait, en tout cas, pour que je me sente chez moi et j'ai mon propre bâtiment et mon indépendance. Donc c'est très bien.
Ben, merci, Justine, et puis bonne continuation.
Ben, de rien, merci beaucoup.
Je m'appelle Jean-Luc Malpeau, j'ai 70 ans et j'ai toujours travaillé dans l'agriculture, donc de 17 à 60 ans, voilà de l'âge auquel j'ai pris ma retraite. Donc j'ai repris la ferme de mon père, en fait, avec qui j'avais travaillé avant, dans le Cambrésis. Donc une ferme classique du Cambrésis pour l'époque, donc 55 hectares avec des betteraves, des céréales, un peu d'élevage bovin, un peu d'élevage porcin.
Donc là, on est en quelle année à peu près?
En 1973,
d'accord.
Que j'ai repris la ferme.
Oui, ok. Ouais.
Et j'avais commencé à revenir à travailler à la ferme en 1964. C'est important de dire 64 parce que c'est vraiment la période où on a changé de politique agricole, où on a mis tous les moyens pour changer de politique agricole. Hein. Après les lois de Pisani, 1962, la loi d'orientation de 1962.
Tu peux en dire quelques mots, autrement dit, le changement là. Le changement, c'était le changement, la rupture, qu'est-ce que c'était?
En fait, le changement d'orientation s'est fait après la guerre, où il fallait augmenter la productivité de l'agriculture pour nourrir la population française et ensuite européenne, puisqu'on était, après la guerre, on était quand même sous le régime du plan Marshall, hein, et on demandait aux États-Unis de pallier au manque de nourriture en France, et en Europe, et en Allemagne, je pense. Et donc, cette orientation-là a été prise après la guerre, mais en fait... elle n'a vraiment été effective qu'avec l'arrivée de Gaulle et de Pisani, comme ministre de l'Agriculture en 1961, je pense, qui lui a vraiment pris les moyens pour mettre en place les mesures qui allaient permettre à l'agriculture d'augmenter sa productivité, donc productivité à l'hectare pour produire plus, et productivité du travail pour produire avec moins de gens. L'objectif étant d'arriver à l'autosuffisance alimentaire en produisant plus, et l'objectif étant de libérer 1 million de personnes de l'agriculture pour aller travailler vers l'industrie. Ce qui permettant en même temps de ne pas trop augmenter le coût du travail.
Donc c'est à ce moment-là que tu rentres dans la profession, quoi, en quelque sorte.
C'est à ce moment-là, en 64, donc au moment où ces politiques-là commençaient à se mettre en place sur les territoires, hein, à la base... que j'ai commencé à travailler, oui, avec toutes les questions qui se posaient sur quelle place on aura dans cette nouvelle agriculture. Voilà, donc ça c'est pour mon installation, mes débuts. Et puis je suis resté sur cette ferme-là, qui est restée toujours à peu près la même taille. Enfin, quand j'ai cédé en 2007, il y avait 57 hectares. Donc j'ai pas agrandi la ferme. C'est un principe de départ de ne pas agrandir la ferme parce que... ne pas agrandir la ferme, ça voulait dire laisser plus de place aux paysans. Quoi. Quand on agrandit une ferme, forcément, il faut qu'il y en ait qui s'en aillent.
Donc tu dis que c'était dès le départ. C'est... Alors que finalement, au départ, c'était pas forcément dans l'air du temps, le fait de ne pas agrandir.
C'était pas du tout dans l'air du temps. Non, c'était même, l'encouragement était même d'agrandir les fermes. Hein. Cette politique-là de Pisani, enfin, on dit la politique de Pisani, mais elle était pensée avant par des gens comme René Dumont, par exemple. C'était une mesure qui était très efficace, c'était l'indemnité viagère de départ. L'indemnité viagère de départ, donc, qui était votée en 1962 dans la loi d'orientation, donnait une prime, donc une indemnité viagère, donc un complément de retraite aux agriculteurs qui partaient pour libérer des terres, pour installer des jeunes et en même temps pour restructurer des fermes, donc pour agrandir des fermes. Il fallait encourager les vieux agriculteurs à partir. Donc quand j'ai repris la ferme, mon père m'a cédé la ferme. Et il a eu l'IVD, ce qu'on appelait l'IVD minimum. S'il avait cédé au voisin pour agrandir, il avait le double. Donc il y avait vraiment un encouragement pour que les gens cèdent à quelqu'un d'autre. Et moi, personnellement, j'ai fait une formation juste avant de reprendre la ferme, là d'un an. Si je m'engageais à ne pas reprendre la ferme, j'avais ma formation gratuite. Comme je ne me suis pas engagé à ne pas reprendre la ferme, puisque je voulais la reprendre, la formation était payante. Donc c'était clair, quoi. Et c'était efficace en plus. Hein.
Oui, autrement dit, en quelque sorte, toi, tu as été un cas particulier. Toi et ton père, vous avez été un cas particulier.
Oui, enfin, il n'y a pas que moi qui ai repris la ferme des parents en ce moment-là, mais ouais. Oui, c'était... Ouais. En tout cas, c'était pas suivre l'orientation
officielle
qu'il fallait suivre. Ah. Bon, ceci dit, la ferme n'était pas non plus très petite, donc elle était viable à ce moment-là. À ce moment-là, 55 hectares dans le Cambrésis, c'était la moyenne.
D'accord. Alors, tu peux évoquer l'activité de la ferme. Donc, c'est de l'élevage. Ça consiste en quoi ?
Donc, l'activité principale, c'était la culture. Enfin, en tout cas, quand je travaillais avec mon père, on avait de l'élevage laitier. Donc, on avait des vaches laitières, une vingtaine, et un petit élevage porcin. Et puis, le reste, c'était des betteraves sucrières, des céréales. Céréales, blé, orge, enfin bon. Et puis, les cultures fourragères pour les vaches. Quand j'ai repris du fait que j'allais travailler seul et que je n'étais pas équipé sur la ferme pour pouvoir faire face au travail de l'élevage laitier, c'était encore des étables entravées, donc des vaches attachées, etc. Donc j'ai supprimé l'élevage laitier et je l'ai remplacé par un élevage de vaches allaitantes, donc un petit élevage, 10 vaches, c'est vraiment tout petit, mais pour permettre d'utiliser les prairies, et puis aussi parce que j'aimais bien avoir de l'élevage, et puis un élevage porcin d'une vingtaine de truies que j'ai gardé pendant une douzaine d'années. Ensuite, j'ai supprimé l'élevage porcin parce que déjà, il fallait réinvestir. Et ensuite, c'était plus nécessaire. Une partie des emprunts étaient remboursés, donc c'était plus vraiment nécessaire. Donc voilà. Mais le revenu principal à ce moment-là, c'était quand même les betteraves sucrières. 15 hectares de betteraves sucrières, c'était pratiquement la... Bon, c'est variable suivant les années, mais 40% du revenu de la ferme.
Alors, peut-être pour poursuivre dans cet échange sur les aspects très, très pratiques et très concrets, bon, j'imagine qu'en plus de 40 ans d'activité, les choses ont dû changer, évoluer. Enfin, c'est un peu ce que tu viens de dire. Hein, tu as abandonné des productions, tu en as développé d'autres. Mais finalement, dans le concret, comment ça se passe là? Je vais pas dire ta journée à la ferme, mais peut-être ta semaine ou ton mois. Enfin, ça se déroule comment? Et puis comment ça s'articule avec la vie familiale? Enfin, peut-être des questions qui aujourd'hui viennent un petit peu naturellement quand on connaît pas le monde paysan finalement.
D'accord. Donc quand on a un élevage important, ce qui n'était pas mon cas, la journée est quand même réglée essentiellement avec avec l'élevage. Si on a des vaches laitières, le matin, il faut traire les vaches, les soigner, les nourrir, et le soir, on recommence. Donc ça, c'est vraiment le rythme de la journée. C'était pas tout à fait mon cas, même si j'avais quand même des animaux, j'avais des veaux, quelques vaches, j'avais une dizaine de vaches et des porcs. Donc le matin, on s'occupe des animaux, c'est la première chose. Et puis après, le travail dépend essentiellement de la saison en culture. Donc il y a des périodes de travail très intenses qui sont la période des semis, parce qu'il faut essayer de les faire dans les bonnes dates, c'est toujours mieux. Donc les semis d'automne pour le blé, les semis de printemps pour l'orge et les betteraves. Donc ça, c'est des périodes où moi je travaillais, au début en tout cas, 70, au moins 70 heures par semaine. Enfin, donc des journées complètes, pratiquement sans arrêt, quoi. Mais ça dure 15 jours à chaque fois, quoi. La période de moisson, pareil, c'est une quinzaine de jours. Après, il y a des périodes où c'est un peu plus régulier comme travail. C'est l'entretien des cultures au printemps, des herbages, tout ça. Mais c'est pas, il n'y a pas la même urgence que la récolte ou les semis. Et l'automne, c'est pareil, les déchômages, les semis d'engrais verts, enfin. Donc il y a des périodes plus calmes où je pouvais plutôt m'organiser pour soit ne pas travailler une journée si je devais partir, soit en famille, soit pour des engagements, soit pour autre chose. Et depuis des périodes où, au contraire, il faut... Il n'y a plus rien d'autre qui compte, quoi. C'est la priorité absolue. Parce que c'est l'essentiel du... Une journée de moisson perdue, ça peut quelquefois coûter cher, quoi.
Et au niveau de la vie de famille, ta conjointe ou ton épouse est impliquée dans la ferme?
Alors, elle a été impliquée en beaucoup moins que moi, oui. Mais elle a... Elle a arrêté son travail pendant une dizaine d'années.
Au début.
Ouais. Donc là, elle participait aux travaux de la ferme, on va dire à mi-temps, en gros, quoi. Et ensuite, elle a repris son travail dans l'enseignement, dans la formation, hein, à partir de 1982-3, quoi. Une dizaine d'années après avoir la reprise à la ferme, ouais.
Et au début, ton père t'a laissé ou t'a accompagné?
À partir du moment où j'ai repris la ferme, c'est moi qui prenais les décisions. Hein. Là-dessus, il n'y avait pas de problème. Donc, il pouvait me donner son avis, mais sans plus, quoi. Il ne s'est pas immiscé dans les grands choix. Mais il venait me donner un coup de main quand il fallait, ouais. Mais ça, c'était plus facile quand j'ai repris la ferme qu'avant. Je pense que peut-être qu'il avait plus confiance quand il a vu comment je faisais, je ne sais pas. Enfin,
bon. Tu avais fait tes preuves. Ouais. Ok, là, tout à l'heure, tu évoquais, à propos de l'élevage porcin, tu évoquais les emprunts. Tu disais, les emprunts sont derrière moi, donc j'ai un peu évolué. Alors, sur cette question des emprunts, bon, j'imagine que c'est pour l'équipement, c'est pour s'équiper. Ouais. Alors, c'est quoi les grands rythmes dans la vie d'une ferme, là, avec le recul de 40 ans dans la vie de ta ferme? Les emprunts, c'était pour investir dans quoi? Qu'est-ce que ça a permis?
D'accord. Donc quand je disais que les emprunts étaient pratiquement remboursés, c'était les emprunts d'installation.
D'accord.
Donc au moment de l'installation, il faut forcément, la ferme représente un capital et qu'il faut payer aux cédants, donc aux parents, puisque à moins d'être fils unique et que les parents aient déjà un bon venu, ce qui est quand même assez rare. Donc il y avait un emprunt. L'avantage que j'ai eu en reprenant, comme la plupart de ceux qui reprennent en famille, c'est qu'on n'est pas soumis à la concurrence, à la surenchère des voisins qui veulent s'agrandir. Donc j'ai repris un tarif, un taux qui me permettait de vivre du revenu de la ferme et de rembourser. Sans gros problème. Je dois reconnaître que j'ai pas eu trop de problèmes pour rembourser, d'autant plus. Alors ça, c'est une conjoncture qui n'a pas duré toujours. C'est qu'on était dans une période où l'inflation était à plus de 10%, donc ça aide à rembourser les emprunts aussi, ce qui n'est plus le cas depuis un certain nombre d'années. Mais bon, ensuite j'ai fait le choix quand même, à partir des années 80, donc une quinzaine d'années après la reprise de la ferme, de ne pas agrandir, donc de ne pas avoir beaucoup d'emprunts à refaire. J'ai pu faire un emprunt pour acheter un tracteur, pour changer de moissonneuse-batteuse, mais enfin, c'est pas très important dans l'ensemble.
Ce micro-rebelle hebdo se termine sur micro-rebelle.fr et sur PFM 99.9.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un courriel à contact@micro-rebelle.fr.
Salut à toutes et à tous et à la semaine prochaine.